terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Et oui, on est toujours sur Onde Radio, c'est le mercredi 27 mars, et voilà, ça fait office de mise en ambiance, de générique de la chronique astro de Michel. Michel, bonjour, Michel Favre.
Bonjour Joël.
Alors, comme là on a un deuxième invité, on va tout de suite attaquer la chronique, mais on rappellera comment retrouver toutes les chroniques, bien sûr, on dira quelques mots de constellations et galaxies. Alors pour cette 109e chronique, là vous allez commencer à nous parler de l'actu, et encore un test raté du Starship, Michel.
Voilà. Étant donné le rôle crucial qu'il doit jouer dans le programme lunaire Artemis de la NASA, on a souvent parlé ici de ce vaisseau spatial. Et je rappelle à nos auditeurs que c'est le plus grand jamais lancé par l'homme, avec ses 120 mètres de hauteur et sa masse de 5000 tonnes sur le pas de tir, surpassant nettement la fusée Saturne V des missions lunaires Apollo des années 1970, pratiquement deux fois moins puissante pour la pousser au décollage. Conçu, construit et opéré par la société privée SpaceX d'Elon Musk, il est constitué de deux parties. Le vaisseau Starship, proprement dit, de 50 mètres de haut, est théoriquement capable à terme de transporter une centaine de passagers, et son premier étage Super Heavy, de 70 mètres de haut, qui est équipé de pas moins que 33 moteurs Raptor qui le propulsent dans la première phase de vol pendant environ 3 minutes. S'il pourra être utilisé par SpaceX dans sa version cargo pour mettre en orbite à plus grande cadence ses satellites de communication Starlink de nouvelle génération, plus lourds, pour cette société et surtout son fondateur Elon Musk, ce doit être le vaisseau qui permettra à terme la colonisation de Mars. Cela explique notamment le choix du méthane liquide comme carburant pour les moteurs Raptor, car il serait théoriquement possible d'en produire sur la planète rouge pour refaire le plein avant un vol retour. D'ailleurs, sur la page des statistiques de missions réussies ou ratées de son site, SpaceX fait déjà figurer le nombre d'atterrissages sur Mars, qui reste bien entendu à zéro actuellement, et selon moi, le restera encore très longtemps. Mais à côté de cet objectif lointain, le Starship est une pièce essentielle du retour sur la Lune, car pour la mission Artemis 3, prévue par la NASA fin 2026, il devra assurer les trajets aller-retour des astronautes entre la Lunar Gateway, une petite station spatiale en orbite autour de la Lune, et la surface lunaire. Mais avant d'y parvenir, il faudra réussir à le faire au moins une fois à vide, ce qui veut dire expédier le Starship jusqu'à la Lune, ce qui nécessitera de le ravitailler en carburant en orbite autour de la Terre, opération périlleuse qui n'a jamais été réalisée sur aucun engin spatial. Et bien entendu, il faudrait d'abord être capable de l'envoyer dans l'espace et le faire revenir sur Terre sans encombre. En effet, dans sa stratégie de réutilisation des lanceurs pour faire baisser les coûts d'accès à l'espace, qui distingue SpaceX de toutes les autres agences spatiales actuellement, les deux modules Starship et Super Heavy doivent revenir se poser en douceur afin d'être réemployés pour d'autres missions, comme c'est le cas des premiers étages des lanceurs Falcon de la société Falcon 9, qui vient d'ailleurs de battre son propre record samedi dernier, 23 mars, lors d'un lancement de satellite Starlink, avec un premier étage qui était tiré pour la 19e fois.
Alors, où en est-on avec le lancement, justement, du Starship ?
Alors, pour le grand public, l'histoire du Starship commence le 20 avril 2023, il y a presque un an, avec le premier lancement de l'ensemble complet Super Heavy plus Starship depuis la base privée de Boca Chica, au sud du Texas, retransmis en direct avec un fort impact dans les médias. On se souvient que le test s'est terminé au bout de 3 minutes environ par une énorme explosion. Dès le départ, tous les 33 moteurs Raptor du premier étage n'ont pas fonctionné correctement, et ayant atteint environ 75 km d'altitude, pratiquement arrivé au moment de la séparation des deux modules, celle-ci n'a pas fonctionné, et l'ensemble a commencé à basculer dans une sorte de spirale incontrôlée, ce qui a conduit à déclencher sa destruction par sécurité afin d'éviter des dégâts au sol si elle poursuivait sa descente. À propos de dégâts au sol, ce tir restera aussi dans les mémoires pour les incroyables ravages infligés au pas de tir, dont le béton n'était pas protégé par une structure métallique refroidie par un déluge d'eau, comme c'est le cas pour tous les lancements opérés sur d'autres bases spatiales. C'est donc avec ce nouveau dispositif de protection qu'a eu lieu le deuxième tir du 18 novembre dernier, qui a permis de progresser dans la logique itérative de SpaceX, puisque la séparation des deux étages s'est déroulée correctement et que le Starship a poursuivi son vol officiellement dans l'espace, puisqu'ayant atteint 148 km d'altitude. Malheureusement, le test n'a pas complètement réussi, car le premier étage Super Heavy aurait dû entamer une descente contrôlée jusque dans les eaux du golfe du Mexique, mais il a explosé peu après la séparation, alors qu'il entamait sa manœuvre de retournement, d'après SpaceX, en raison d'un mouvement trop violent de carburant dans ses réservoirs. Le vaisseau Starship aurait dû poursuivre son vol environ 1h30 en atteignant 250 km d'altitude, sur une bonne portion d'une orbite terrestre, avant sa rentrée atmosphérique et un amerrissage contrôlé dans l'océan Pacifique du côté d'Hawaï. Au lieu de cela, il a aussi explosé seulement 5 minutes après la séparation, car le système automatique d'autodestruction s'est déclenché.
Et le dernier tir du Starship en mars a-t-il permis de progresser ?
Alors, le troisième test effectué le 14 mars dernier a encore connu une fin anticipée, mais marque un progrès supplémentaire dans la mise au point de ce lanceur selon la stratégie de SpaceX, hein, qui consiste à avancer par essais et ratages, on pourrait dire successifs, afin de corriger les problèmes techniques. Le vol s'est déroulé comme prévu jusqu'à la séparation des deux étages. Le Super Heavy a alors entamé correctement sa redescente contrôlée en utilisant trois de ses moteurs, mais pour la phase de freinage final, afin d'entrer en douceur dans les eaux de l'Atlantique, il devait en rallumer 13 autres. Or, un seul a répondu correctement, ce qui a produit un crash violent à la surface de l'eau. De son côté, après environ 8 minutes et demie de vol, le Starship atteignait l'altitude de 200 km et une vitesse de 26 000 km/h, presque suffisante pour se mettre en orbite terrestre, adoptant une trajectoire balistique le conduisant vers le Pacifique. Malheureusement, les caméras embarquées ont montré ce qui semble être une fuite de carburant, probablement à l'origine de son comportement anormal, avec des mouvements de tangage et de roulis incontrôlés. Le test d'ouverture de la trappe du cargo, pour le futur largage des satellites Starlink, a été réussi, mais il semble que tout ne se soit pas parfaitement déroulé lors de sa fermeture. Le test de transfert de carburant d'un réservoir à un autre, préfigurant le futur ravitaillement en orbite, n'a sans doute pas été tenté, même si SpaceX n'a pas communiqué à ce sujet, ni le rallumage temporaire de trois moteurs dans l'espace. Ayant culminé à 235 km d'altitude, le vaisseau a entamé après 49 minutes de vol sa manœuvre de rentrée atmosphérique et les caméras ont montré la formation de plasma incandescent autour de ses ailerons et sur ses tuiles de protection thermique. Mais malgré ses ailerons mobiles destinés à contrôler son attitude, ses mouvements anormaux se sont poursuivis, conduisant des parties non protégées du fuselage à être exposées aux températures extrêmes produites par le frottement sur les hautes couches atmosphériques. Au final, la liaison avec l'engin a été perdue, laissant supposer qu'il avait été détruit au-dessus de l'océan Indien. Pour conclure, je dirais que SpaceX progresse nettement d'un test à l'autre, fidèle à sa stratégie de développement itérative, mais les marches à gravir restent importantes avant le vol lunaire, alors que le délai imparti est plutôt court, malgré le report d'Artemis 3 à septembre 2026. En 2 ans et demi, il faudra réussir un vol complet en orbite terrestre avec le retour contrôlé de deux modules en douceur sur Terre, réaliser un ravitaillement de Starship en orbite, ce qui nécessite l'envoi de versions tanker en orbite probablement 6, si on se base sur les différentes estimations qui vont de 4 à 8 selon les sources, atteindre l'orbite lunaire et réussir au moins un aller-retour jusqu'à la surface lunaire. Et cela avec la version de transport d'équipage, alors que les tests actuels portent sur la version cargo. On n'a donc pas fini de commenter les essais successifs du Starship avant de le voir déposer 4 astronautes à la surface de la Lune.
Et pendant ce temps-là, la Chine poursuit de son côté son programme lunaire avec succès ?
Oui, alors je rappelle à nos auditeurs que la Chine a annoncé comme objectif de poser des taïkonautes sur la Lune avant 2030. Et selon de nombreux spécialistes, elle vise probablement 2029, qui sera le 80e anniversaire de la prise de pouvoir par le Parti communiste chinois. Date symboliquement importante pour une étape cruciale de son programme spatial, comme l'avait été le premier vol du vaisseau habité Shenzhou en 1999, donc pour le 50e anniversaire. Par ailleurs, il est probable que, comme la NASA, il vise plutôt la région du pôle sud lunaire, Car, comme je l'ai déjà expliqué ici, la nuit permanente régnant au fond de certains cratères permettant de mettre les astronautes à l'abri des rayons solaires dangereux et la présence confirmée de glace y sont deux facteurs favorables à des séjours de longue durée. Cela explique l'intérêt du lancement réussi la semaine dernière, le 20 mars, du satellite lunaire Keqiao 2. Comme son nom l'indique, il fait suite à Keqiao 1, qui est en orbite lunaire depuis 2018 et permet des communications avec la surface de la face cachée de la Lune. Impossible sans ce relais, car toute la masse de notre satellite empêche une liaison directe avec la Terre. C'est ce dispositif qui avait rendu possible la mission Chang'e 4, posée en douceur le 3 janvier 2019 sur cette face cachée, exploit qui n'avait jamais été réussi par aucune agence spatiale auparavant. Bien plus gros que le premier, hein, il fait 1,2 tonne contre 450 kg, donc trois fois plus gros à peu près, et doté d'une antenne de 4,20 m qui s'est déjà déployée avec succès, le nouveau Keqiao 2 doit rejoindre très prochainement une position stable, le point de Lagrange L2, où les attractions lunaires et terrestres s'équilibrent, lui permettant d'assurer en permanence le relais entre la région du pôle sud et la Terre. C'est un élément essentiel pour les futures missions Chang'e, dont la prochaine, Chang'e 6, prévue ce printemps, hein, au mois de mai en principe, qui doit se poser dans le bassin Aitken, au pôle sud lunaire, sur la face cachée, d'où elle devrait nous envoyer environ 2 kg d'échantillons qu'elle aura prélevés, comme l'avait déjà fait Chang'e 5 en 2020, mais elle depuis un site de la face visible. Il est clair que ce satellite relais devrait aussi jouer un rôle dans les futures missions lunaires habitées de l'agence chinoise, la CNSA. À l'opposé des réussites chinoises, on notera l'échec de la sonde lunaire américaine privée IM-1, ou Odysseus, dont nous avions parlé le mois dernier, après son alunissage trop violent qu'il avait laissé dans une position basculée. Éteinte une semaine après, en raison de l'arrivée sur elle de la lune lunaire, elle n'a pas pu être réactivée depuis le retour du Soleil sur ses panneaux solaires.
Alors, quelques nouvelles des sondes spatiales actuellement en mission.
Oui, alors un pépin du côté de l'ESA, l'agence spatiale européenne, avec son télescope spatial Euclide, lancé le 1er juillet dernier, est destiné à cartographier de manière très précise des milliards de galaxies, afin de faire progresser nos connaissances cosmologiques, notamment en ce qui concerne les notions encore inexpliquées de matière noire et d'énergie sombre. Malheureusement, depuis novembre dernier, on constate qu'il nous envoie des images un peu floues, incompatibles avec la précision requise pour sa mission scientifique. Pour les anciens comme moi, ce n'est pas sans rappeler les déboires du télescope spatial Hubble au début de sa mission, au début des années 1990. Mais il ne s'agit pas cette fois d'une erreur de réalisation de l'optique, mais d'un dépôt d'une couche de givre très fine, probablement due à une infime quantité de molécules d'eau restant dans le télescope, malgré les énormes précautions prises pendant sa préparation. Malheureusement, contrairement à Hubble, il est totalement impossible d'imaginer une mission de réparation, car il est situé à un point de Lagrange à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Deuxième difficulté, on ne sait pas précisément sur quelle partie du chemin optique, comme on appelle le trajet de la lumière du miroir principal jusqu'aux instruments, cette anomalie se situe. C'est pourquoi l'ESA a commencé la semaine dernière à chauffer deux des trois miroirs du télescope, faisant passer leur température de moins 140 degrés à moins 3 degrés, ce qui est suffisant dans l'espace pour sublimer la glace, c'est-à-dire à la faire passer à l'état de vapeur d'eau. On devrait constater l'amélioration vers mi-avril. Et si cela n'a pas marché, il n'y aura plus alors d'autre solution que de réchauffer tout le télescope. Une solution extrême, car elle nécessiterait ensuite un recalibrage complet, soit un mois de délai avant la reprise des observations. Et il y a toujours le risque que la glace se reforme ultérieurement. Dans le pire des scénarios envisagés par l'ESA, avec un dégivrage annuel, ce serait donc 6 mois cumulés d'observations qui seraient perdus pendant toute la durée de la mission prévue de 6 ans. Comme quoi, un peu de glace qui se dépose est bien plus pénalisant dans l'espace que sur nos pare-brises les matins d'hiver. Et pour finir, une nouvelle un peu plus réjouissante avec Ariane 6, dont je vous avais signalé le mois dernier le départ pour la Guyane à bord du navire Canopé équipé de voiles. Non seulement elle est bien arrivée, mais elle est déjà en cours de montage, comme a pu le constater le président Macron hier lors de sa visite du bâtiment d'assemblage du Centre spatial guyanais. Elle devrait être dressée sur son pâtir d'ici 3 semaines pour un premier tir d'essai toujours prévu fin juin.
Et un petit retour à l'astronomie avec 3 observations possibles du ciel dans les prochaines semaines.
Oui, alors plutôt que de les inclure dans notre habituelle rubrique « Le ciel du mois » de tout à l'heure, j'ai préféré évoquer à part ces 3 observations car elles sont un peu exceptionnelles. Tout d'abord, il y a la comète périodique 12P Ponce-Brooks, qui est assez analogue à la célèbre comète de Halley, puisqu'elle revient vers le centre du système solaire tous les 71 ans environ. Bien que certaines recherches historiques semblent montrer qu'on a pu l'observer dès le 14e et 15e siècle, sa découverte officielle date du 12 juillet 1812 par l'astronome français Jean-Louis Pons de l'Observatoire de Marseille à l'époque, avant d'être redécouverte lors de son passage de 1883-84 par l'anglo-américain William Robert Brooks, d'où sa double attribution, hein, 12P Pons-Brooks. Et son dernier passage remonte à 1953-54. Autant dire que si on n'essaie pas de la voir en ce moment, il sera difficile pour la plupart d'entre nous d'attendre ce retour en 2095. Depuis plusieurs mois que les astronomes observent son approche, elle ne cesse de devenir plus grosse et lumineuse, puisque son activité de dégazage, donc la taille de sa queue, est d'autant plus forte qu'elle est proche du Soleil, et que de plus, celui-ci l'éclaire plus intensément. Son passage au Périhélie, point de sa trajectoire le plus près du Soleil, sera le 21 avril. Mais à ce moment-là, elle sera difficile à observer car elle se sera aussi rapprochée du Soleil dans le ciel, donc sera très basse en début de nuit et probablement masquée par les lueurs du crépuscule. Actuellement, elle est à la limite de la visibilité à l'œil nu dans un ciel bien noir, avec une magnitude proche de 6. Et mi-mars, on pouvait déjà très facilement la trouver avec une paire de jumelles. Ces jours-ci, la grosse lune gêne son observation, mais on devrait retrouver des conditions favorables début avril, donc à partir de la semaine prochaine. Le deuxième événement astronomique qui devrait se produire dans les prochaines semaines ou les prochains mois est un peu paradoxal, car une nova est généralement imprévisible, ce terme désignant une nouvelle étoile qui apparaît subitement dans le ciel et dont on sait maintenant qu'il est dû à un énorme saut de luminosité d'une étoile existante par différents mécanismes décrits par l'astrophysique. Mais T Coronae Borealis, puisqu'il s'agit d'une étoile de la constellation de la couronne boréale, est très particulière, car des études montrent qu'elle a régulièrement des sursauts de luminosité tous les 80 ans environ, la faisant passer brusquement de sa magnitude habituelle de 10, donc totalement invisible à l'œil nu, à un éclat aussi fort que l'étoile la plus brillante de la constellation. Selon des études historiques, sans remonter à une apparition un peu douteuse en 1217, ce phénomène se serait produit en 1787, en 1866 et en 1976. Selon l'astrophysicien américain Bradley Schaeffer de l'Université d'État de Louisiane, qui a étudié ces cas et le comportement récent de l'étoile, une nouvelle apparition serait imminente. La couronne boréale est assez facile à reconnaître dans le ciel, car elle est composée de 7 étoiles formant un arc de cercle assez régulier, avec la plus brillante en son milieu. En ce moment, elle se lève vers 22h au nord-est, hein, je parle en heure d'été, donc à partir de dimanche. Quand la nova se manifestera, on verra une 8e étoile près de l'avant-dernière de l'arc gauche. Mais attention, ce pic de luminosité ne durera que quelques jours et ensuite il faudra attendre son retour 80 ans. Enfin, les sites d'astronomie comme celui de Ciel et Espace nous prédisaient la possibilité d'une observation assez rare en France, celle d'aurore boréale, notamment au mois de mars, car la proximité de l'équinoxe est un élément favorable avec la forte activité solaire qui est proche de son maximum en 2024-2025. Et effectivement, on a pu en voir le 3 mars dernier, comme le montre une photo prise à une centaine de kilomètres à l'ouest de Paris et publiée sur le site de la revue, hein, Ciel et Espace de l'AFA, l'Association française d'astronomie. Cela se traduit par des lueurs rouges du côté de l'horizon nord, mais le spectacle était autrement plus impressionnant en Finlande, où je m'étais rendu dans l'espoir d'en observer et où j'ai eu la chance d'avoir un ciel dégagé pile ce soir-là, où selon des témoins, l'activité aurorale aura été l'une des plus intenses de cet hiver. Bien entendu, en Aquitaine, nous ne sommes pas favorisés par notre situation au sud du pays, mais rien n'empêcherait de pouvoir en observer si une activité solaire particulièrement intense faisait descendre l'arc aurorale en latitude. En 1859, on en a observé à Honolulu et à Singapour en 1909. Et plus près de nous, dans le sud de l'Europe, en 2003. Donc on peut toujours surveiller le nord en espérant voir apparaître ces lueurs rougeâtres.
Allez, vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Nous sommes le mercredi 27 mars et on est toujours avec Michel Favré pour sa 109e chronique astro. Et là, Michel, vous allez nous parler bien du thème du mois autour des aurores polaires.
Voilà, en raison de la période favorable pour leur observation et mon actualité personnelle, puisque j'étais en Finlande, plus précisément en Laponie, du côté de Sirka, pour les observer entre le 2 et 9 mars, car il n'y avait pas de lune gênante, j'ai trouvé naturel de parler de ce phénomène astronomique qu'on n'a jamais abordé ici dans les chroniques. Au sens strict, il s'agit d'un phénomène atmosphérique, mais son origine est tellement liée à des processus spatiaux qu'elles ont toute leur place dans notre chronique. Pour commencer, une petite précision de vocabulaire, car l'on parle généralement d'aurore boréale. Mais cette expression ne désigne exactement que le phénomène lorsqu'il se produit dans les régions polaires nord, alors qu'il existe son exacte symétrique au sud avec les aurores australes, les deux étant regroupés sous le terme d'aurore polaire. On connaît ces lueurs étranges depuis l'Antiquité, puisqu'il est par exemple évoqué par Pline l'Ancien au 1er siècle de notre ère, mais c'était à l'occasion d'une manifestation tout à fait exceptionnelle dans le ciel de Rome. Il est évident que les peuples du Nord, où elles se produisent le plus souvent et le plus intensément, les ont observées de tout temps. Et comme tout phénomène inexplicable, on leur a trouvé des origines légendaires. Pour les Samis, appelés à tort les Lapons, ce serait un renard polaire qui, en courant dans les vastes étendues de taïga, soulèverait la neige avec sa queue. Les Inuits du Groenland y voyaient des âmes des morts, alors qu'une tribu du Nunavut les attribuait à des morses. De nombreuses autres légendes nordiques faisaient aussi référence à toutes sortes d'animaux, rennes, phoques, baleines. Pour les Vikings, c'était le reflet du soleil ou de la lune sur les armures des Valkyries. Mais avant d'expliquer leur origine par la science moderne, il faut rappeler qu'avant les photographies, révélant des couleurs éclatantes, vertes, rouges et mauves, à l'œil nu, elles ne se manifestent que comme des sortes de lueurs pâles, d'un gris légèrement verdâtre, agitées de mouvements lents, incessants et imprévisibles, presque hypnotique, tellement leur vision est fascinante.
Alors comment explique-t-on aujourd'hui ce phénomène étrange ?
Alors à l'origine, il y a notre étoile, le Soleil. Je rappelle qu'il est immense par rapport à la Terre, puisqu'il pourrait la contenir environ 1 300 000 fois. Mais comme il s'agit d'une sphère gazeuse, sa masse est un peu moins énorme, avec seulement, si je peux dire, 330 000 fois celle de la Terre. Il est principalement constitué d'hydrogène, l'élément le plus répandu dans l'univers, à 92%, et d'un peu moins de 8% d'hélium, tous les éléments plus lourds représentant moins de 1/1000 de sa masse. Comme toutes les étoiles, sa masse énorme produit en son cœur une pression gigantesque et des températures si élevées, dans les 15 millions de degrés, contre environ 6000 degrés à la surface, que peuvent s'y produire des réactions de fusion nucléaire, ce qu'on essaie de reproduire sur Terre, comme dans le futur réacteur expérimental international ITER, en construction à Cadarache. Les noyaux d'hydrogène fusionnent en noyaux d'hélium, ce qui, selon la célèbre équation d'Einstein E égale mc2, dégage une énergie considérable en raison d'une perte de masse de plus de 4 millions de tonnes par seconde. Cette énergie est émise sous forme de rayonnement, donc des photons, qui sortent du cœur pour traverser ensuite une épaisse couche dite radiative, où ce sont les photons qui transportent cette énergie, mais la densité de matière y est si forte que par des processus d'absorption et de réémission incessants, ils lui font un temps considérable pour la traverser. On a calculé que ça devait prendre dans les 80 à 100 000 ans. Ensuite, quand la densité est moins forte, elle traverse la couche convective, où ce sont principalement les mouvements de matière, la convection, qui transportent la chaleur. C'est comme dans une casserole d'eau que l'on met à chauffer, où l'eau réchauffée au fond, plus légère en raison de sa dilatation, monte dans l'eau plus froide au-dessus d'elle jusqu'à la surface. Et quand l'eau bout, la production de bulles de vapeur qui viennent éclater à la surface. Vu la taille du Soleil, ce parcours est très lent et on estime qu'il faut presque 1 million d'années pour que l'énergie produite au cœur du Soleil atteigne sa surface. Et dire ensuite que le photon de lumière ne mettra que 8 minutes pour atteindre la Terre, 20 fois plus lointaine. Mais pour ce qui concerne les aurores, ce n'est pas la lumière émise par le Soleil qui nous intéresse, mais les particules qu'il envoie tout autour de lui et qu'on appelle le vent solaire. Si on repense aux bulles qui viennent éclater à la surface de l'eau bouillante, on pourrait dire qu'il se produit quelque chose de similaire à la surface du Soleil, même si les mécanismes en sont bien plus complexes, car ils mettent en jeu du plasma, donc des particules électriquement chargées, protons et électrons principalement, se déplaçant dans l'intense champ magnétique du Soleil et le modifiant en retour. C'est ce qui donne souvent cette forme de boucle aux protubérances qu'on peut observer à la surface du Soleil.
Et le champ magnétique de la Terre joue aussi un rôle dans la formation des aurores.
Effectivement. Quand une éruption solaire est forte, elle éjecte une masse de plasma dans l'espace. On parle d'EMC, éjection de masse coronale, qui a une vitesse très grande, de l'ordre de 400 km par seconde, ce qui lui fait atteindre la Terre en environ 2 à 3 jours, quand on a la malchance qu'elle vienne dans notre direction, ou plutôt la chance si on veut observer des aurores. Cela explique que l'on sache prédire environ 3 jours à l'avance une forte activité aurorale. Sur une planète sans défense comme Mars, l'arrivée de telles bouffées de particules solaires est une catastrophe, car en pénétrant dans l'atmosphère, elle en éjecte les molécules dans l'espace. Et au fur et à mesure de cette sorte d'érosion, la planète finit par perdre progressivement son atmosphère, ce qui est arrivé pour Mars et Mercure. Mais heureusement pour nous, notre Terre possède un bouclier la protégeant contre ces agressions, avec son champ magnétique qui trouve son origine dans le noyau de fer en rotation au centre de notre planète. Il dévie les particules solaires chargées électriquement qui poursuivent leur trajectoire sans pénétrer dans notre atmosphère, du moins pour la plupart. Car les plus énergétiques parviennent quand même à se frayer un passage dans le bouclier magnétique terrestre où il est le plus faible, en longeant les lignes de champ qui forment comme deux entonnoirs autour des pôles, environ au niveau des cercles polaires vers 70 degrés de latitude, sauf que ces couronnes aurorales ne sont pas centrées sur les pôles géographiques, mais sur les pôles magnétiques de notre planète. Et c'est quand ces particules pénètrent dans les hautes couches de l'atmosphère que les aurores apparaissent. Théoriquement, certaines entrent directement en arrivant du Soleil. Mais comme c'est du côté où il fait jour, il est impossible de voir les aurores qu'elles produisent. Mais heureusement, il y en a aussi qui entrent du côté nuit, par une espèce d'effet rebond qu'on appelle reconnexion des lignes de champ magnétique, qui les fait revenir vers la Terre qu'elles avaient évité lors de leur premier passage, ce qui nous donne de belles aurores nocturnes qu'on peut observer. Cette origine solaire des aurores explique pourquoi il est plus favorable d'essayer de les observer durant les périodes de forte activité solaire, qui atteint son maximum selon un cycle de 11 ans environ. Le dernier s'étant produit en 2014 et l'actuel étant prévu vers 2025. Avec les observations des satellites solaires permettant de connaître les éruptions environ 3 jours avant qu'elles n'atteignent la Terre, des satellites mesurant le vent solaire environ 1 heure avant son arrivée et des stations au sol mesurant les perturbations qu'ils causent au champ magnétique terrestre, on peut prédire dans une certaine mesure l'intensité des aurores chaque nuit. Et il existe des sites en ligne, notamment le Space Weather, ça veut dire la météo spatiale, du NOAA, l'agence américaine étudiant l'atmosphère et les océans, ou des applications pour smartphone qui permettent de connaître les indicateurs annonciateurs d'une forte activité aurorale, notamment un indice magnétique appelé KP, entre 0 et 9, et qui était à 5 lors de notre belle nuit du 3 mars, mais qu'il faudrait voir monter plutôt vers 7-8 pour voir des aurores depuis la France.
Alors à propos de ces belles aurores, d'où viennent les différentes couleurs qu'on peut voir, du moins sur les photos ?
Alors c'est une question d'altitude à laquelle se produisent les aurores. Toujours dans la très haute atmosphère, généralement la thermosphère à plus de 80 km. En pénétrant dans l'atmosphère, les particules solaires viennent heurter les atomes et molécules qui la composent, ce qui les excite, c'est-à-dire qui fait passer leurs électrons à un autre niveau d'énergie qu'au repos. Ensuite, l'atome se désexcite en émettant une lumière d'une longueur d'onde bien spécifique. Cela produit donc des couleurs bien précises en fonction des éléments rencontrés lors de la pénétration plus ou moins bas dans l'atmosphère. Les belles draperies vertes observées dans les régions polaires correspondent à une émission caractéristique des atomes d'oxygène présents entre 120 et 180 km d'altitude. Alors que plus haut, où ces atomes sont plus rares, les conditions produisent une émission rouge de l'oxygène vers 200 km. Cela explique pourquoi les aurores sont perçues comme des lueurs rougeâtres quand elles sont vues à de plus basses latitudes, comme en France, car de là, on ne peut en voir que la partie supérieure. Enfin, pour les particules pénétrant plus profondément dans l'atmosphère, en dessous de 100 km, elles vont percuter des molécules surtout d'azote, car trois fois plus nombreuses que celles d'oxygène, produisant l'émission d'une couleur pourpre-violette. Ces formes colorées, parfois très intensément, ne se révèlent malheureusement qu'à la photo. Mais même si nos yeux ne sont capables de distinguer que des lueurs gris-verdâtres, je conseille à tous nos auditeurs qui en auraient l'occasion d'aller les admirer, tant ce spectacle mouvant est étrange et fascinant.
Vous êtes toujours à l'écho des programmes d'Odo Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. On est toujours dans le cadre de notre journal en ce mercredi 27 mars avec Michel Favré pour sa 109e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique et nous parler du ciel du mois.
Oui, alors comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique Ciel du mois de la section astronomie de notre site web. Je rappelle www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org pour voir les cartes du ciel, difficile à montrer à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour avril ce week-end. Une précision concernant les horaires que je vais indiquer. Comme dans la nuit de samedi à dimanche, on repasse à l'heure d'été, donc à 2h, on décale nos horloges à 3h, j'ai trouvé plus simple de donner tous les horaires dans cette référence. Si vous observez le ciel d'ici samedi inclus, il faut retrancher 1 heure à mes indications. Venant de passer l'équinoxe du 20 mars, donc un jour devenu plus long que la nuit, et avec ce changement d'heure, on entre dans une période plus difficile pour les observateurs du ciel nocturne, avec une nuit qui survient bien plus tard. Dimanche, le soleil se couchera vers 20h30 et la nuit n'arrivera que vers 21h30. Fin avril, ce sera encore plus tard, avec le coucher vers 21h et la nuit vers 22h15. Comme nous venons d'entrer dans le printemps, en début nuit, le ciel se partage en deux, avec vers l'ouest les constellations de l'hiver, donc, dont la principale Orion, bien reconnaissable à sa silhouette humaine, ayant déjà bien entamé sa descente au sud-ouest pour aller se coucher, entourée par toutes les autres constellations de cette saison, le taureau, le cocher, les gémeaux, le petit et le grand chien. Côté est, ce sont celles du printemps qui montent dans le ciel, avec la figure bien reconnaissable du lion, juste sous les pattes de la grande ourse, suivie par la Vierge, pas encore totalement levée, et le bouvier. Puis la couronne boréale, dans laquelle devrait apparaître prochainement une nova, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Fin avril, on sera rentré de plein pied dans le printemps, et en début de nuit, Orion sera déjà sur le point de se coucher, alors que le lion culminera haut dans le ciel, au sud, avec toutes les constellations de printemps qui le suivent, et déjà celles de l'été qui se lèveront comme Hercule et la Lyre. Côté planète, le choix est très limité, car seul Jupiter est encore visible le soir à l'ouest, mais déjà assez basse, car se couchant dès 23h30, pour disparaître progressivement avant la fin du mois. Début avril, on peut encore apercevoir la très brillante Vénus dans les lueurs de l'aube, mais elle va disparaître au fil des jours. C'est Mars qui va progressivement la remplacer dans le ciel matinal, mais elle n'est pas encore très brillante et ne se lève qu'une heure avant le soleil, donc au début de l'aube. Ce sera un tout petit peu plus favorable fin avril avec une demi-heure d'avance supplémentaire sur le soleil. La situation est analogue pour Saturne qui se lève actuellement après Mars, mais le devancera à la fin du mois, ce qui lui permettra de monter un peu plus haut dans le ciel avant l'aube. Les deux planètes se croiseront d'ailleurs dans le ciel le 11 avril, avec une conjonction très serrée, mais difficile à observer car le duo ne montera pas bien haut dans le ciel avant sa disparition dans les lueurs de l'aube. Comme chaque mois, la Lune s'invitera près des planètes en produisant des conjonctions, mais une seule sera visible en avril. Le mercredi 10, le très fin croissant se rapproche de la brillante Jupiter, environ la largeur de deux doigts bras tendus. Et si l'on imagine compléter un triangle avec une troisième pointe située vers le bas, cela permettra d'essayer de localiser la comète Ponce-Brooks dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sera peut-être proche de ses conditions d'observation idéales avec une lune peu gênante et un écart au soleil encore relativement acceptable. Je signale d'ailleurs que sur la page « Ciel du mois » de notre site web, il y a une carte indiquant jour après jour sa position par rapport aux constellations voisines. Enfin, pour être complet, je vous signale une éclipse totale de soleil le 8 avril, mais malheureusement, elle ne sera observable qu'au Mexique et aux USA, mais pas du tout en France, où elle ne sera même pas partielle. En principe, notre prochaine chronique est prévue le mercredi 24 avril, où on reparlera peut-être du prochain lancement du Starship prévu pour mai.
Voilà, merci Michel pour cette belle chronique. Donc rendez-vous, voilà, c'est mensuel, donc à la fin du mois prochain. Il va nous rester juste quelques instants et rappeler déjà le site où on peut retrouver toutes ces chroniques archivées.
Voilà, www.constellationsetgalaxies.org, hein, tout attaché, Constellations et Galaxies. La plus grosse partie du site est un site, je pourrais dire historique, hein, d'archives où on parle des anciennes activités de l'association avec le planétarium, des expositions, des choses comme ça. Et la partie, si je peux dire vivante, c'est la partie astronomie. Hein, il y a un menu en haut à droite de la page d'accueil. Donc dans la section astronomie, on trouve à la fois l'accès à la page Ciel du mois, qui reprend ce que je viens de donner avec plus de détails et des cartes. Et on a une rubrique Chronique Astro sur O2 Radio, dans lequel on retrouve les enregistrements MP3 de toutes les chroniques depuis la première en septembre 2014, hein, bientôt 10 ans, et dans l'ordre chronologique inverse, c'est-à-dire la plus récente d'abord, et avec un petit résumé du contenu, ce qui permet de choisir en fonction des centres d'intérêt qu'on peut avoir par rapport au ciel et à l'espace, parce que je ne pense pas qu'on va se lancer dans l'écoute systématique de toutes les chroniques les unes après les autres. Je pense que ce serait très long et un peu pénible sans doute.
En tout cas, merci beaucoup, hein, Michel, pour ce travail. On vous retrouve le mois prochain. On va repartager via les réseaux sociaux. Ça permettra d'avoir à nouveau le lien du site Constellations et Galaxies pour retrouver plein d'infos, de l'actu et puis bien sûr toutes les chroniques. Merci encore, Michel.
De rien. Et pour le site, j'ai envoyé une photo d'Aurore
ce
matin, si vous voulez la mettre.
Ça, on en parle en
une direct. Que j'ai prise le 3 mars en Finlande.
Tout à fait. Merci Michel pour cette ultime précision.